Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Réfléchir. Je cite, première citation, « En démocratie, l'administration publique a un devoir d'efficacité et d'égalité. Elle a aussi une double obligation de transparence et de vérité. » C'est signé André-Marie Poncelet, l'administrateur général de la culture à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ces personnages qui ont un poids énorme et qu'on ne voit pas spécialement. Autre citation, la déclaration de la politique communautaire 2009-2004 de Rudy de Motte et consorts pour une énergie partagée, pour une société durable, humaine et solidaire. Alors ces citations me rendent perplexe de la chose politique parce que pour l'instant, dans le milieu des arts de la scène, la ministre Fadila Lanane a décidé de faire des coupes budgétaires là où il y a des budgets facultatifs, comme on dit, mais pour un secteur très important qui est l'aide aux projets. On en parlera avec les invités qui sont là dans l'émission. Évidemment, on ne fait pas de la com dans la conspiration des planches, mais bien du journalisme. Donc on a demandé au ministère de la Communauté française, à la ministre de la Culture, d'avoir un conseiller art de la scène qui s'appelle Paul Maréchal, pour venir un peu nous expliquer comment ça se passe à l'intérieur et comment ces coupes ont pu être décidées, quel est l'avenir. Ils n'ont pas voulu assister au débat. On nous a dit qu'en temps de crise, on préfère ne pas prendre la parole, ce qui nous étonne encore plus parce qu'au niveau de la communication et des responsabilités politiques, on s'attendait à une prise de parole concrète. En tout cas, ça bouge au niveau des gens de la scène, hein, des artistes. On ne croyait pas que ça allait se fédérer comme ça, mais il y a un conseil d'aide qui s'est mis en place avec des artistes, 8 artistes qui ont fédéré un mouvement. On le sent sérieux et même s'il y a des visions, on sent que ça va vers une ligne droite très concrète. J'ai à mes côtés Antoine Lobin qui est à l'initiative de ce conseil d'aide.
Alors, on est 8, donc pas ni plus ni moins que les 7 autres.
Et c'est eux qui ont organisé hier justement la manifestation auprès de la ministre de la Culture. Vous savez combien de personnes il y avait? Vous avez des chiffres?
On nous a dit un bon millier.
Olivier, toi tu étais là?
Oui, je pense qu'il y avait plus ou moins 800 000 personnes.
J'ai à mes côtés, pour bien comprendre l'aide au projet, comme on dit, j'ai à mes côtés Myriam Sadoui qui est meilleure metteuse en scène 2012 pour la nostalgie de l'avenir. Et vous avez reçu un budget justement pour de la CAP, ce qu'on parle.
Tout à fait, donc les chiffres sont très clairs. Ce spectacle aurait été irréalisable sans l'aide à la création. Donc j'ai reçu 40 000 euros de la CAP. Le Théâtre Océan Nord est coproducteur à hauteur de 21 000 euros, dont 10 000 euros de liquidité. Donc ça fait 50 000.
Ça, on en reparle après.
On en reparle après, ok. Très bien.
Et j'ai à mes côtés de moi un directeur de théâtre, hein, Michael Delaunoy, le Rideau de Bruxelles, qui aussi soutient ce projet de la CAP.
Ah, absolument, oui.
Et vous le soutenez à titre personnel ou à titre du Compass, comme on dit?
Alors là, la Compass, qui est donc une association d'employeurs des arts de la scène, soutient le mouvement, effectivement. Nous sommes absolument opposés à ce qu'il y ait des restrictions au niveau du Conseil de l'aide au projet et au niveau de la création en général.
Alors j'explique un peu le contexte politique derrière tout ça. C'est des articles de Guy Duplat qui travaille à la Libre Belgique et qui est un des seuls qui suit vraiment, faut le reconnaître, la politique culturelle en sous-main au quotidien. Et donc il a sorti un article, c'est comme ça je pense que Antoine vous l'avez su, où on annonçait 45% de subsides retirés à l'aide au projet.
Est-ce oui, c'est ça. Oui, notre groupe s'est constitué de manière totalement improvisée, il y a 8 jours de cela, après avoir lu l'article de Guy Duplat. 2-3 coups de fil dans l'après-midi, vous vous rendez compte, on va quand même pas laisser passer ça. Le soir, on organisait la première réunion du groupe de travail, et hier, nous y étions 1000.
Alors pour bien comprendre comment fonctionnent les spectacles que vous voyez tous les soirs, les théâtres fonctionnent par des contrats programmes, ils ont une aide pour 5 ans, une aide consistante, par exemple 6 millions pour le Théâtre National, 1,7 million pour le public, 1,5 million ou 6 pour le Rideau.
1,540 000 euros.
pour le rideau. D'autres théâtres comme la Balsa, c'est plus ou moins 800 000. L'Océan Nord, c'est plus ou moins 400 000. Vous voyez un peu la tranche de théâtre. Il y a des compagnies qui reçoivent une convention de 2 ou de 4 ans. Donc, c'est un budget, c'est une espèce de stabilité pour leur permettre de travailler. Ça va de 70 000 à 250 000. Par exemple, Transquinquennal. Vous avez des compagnies comme La Petite Âme. Tout ça. Et puis, il y a un moment donné, l'aide ponctuelle. Donc, il y a une enveloppe de 1 260 000 où, pour des premiers projets, deuxième projet ou troisième projet, des artistes peuvent...
Ou bien au-delà. Il y a des artistes de 50 ans ou plus qui émargent à cette commission.
Ils peuvent rentrer un dossier et avoir un budget, ça va de 30 000 à 100 000.
Et ça, c'est les budgets facultatifs dont parle Fadi Derrener.
Voilà, ce sont des aides ponctuelles.
Sur les premiers projets, ça va bien en dessous de 30 000 aussi.
Oui, on peut avoir 15 000. Ouais. En tout cas, quelqu'un qui sort de l'école ou qui a un projet peut rentrer un projet, avoir une aide et faire son spectacle. Hier, c'était très intéressant, des artistes me disaient, ça garantit que les théâtres ne soient pas... gestionnaire un peu de ce qui se passe au niveau de l'esthétique ou de la créativité, ça permet des jeunes émergents. C'est ce qui, à la base, c'était fait pour ça. Tous les gens qu'on voit maintenant, Philippe Sireuil, Isabelle Pousseur et tout, sont passés par cette aide qui date des années 70. Et cette aide la plus fragilisée qui est mise à mal, Antoine.
Oui, c'est exactement ça, c'est ce que tu dis, c'est la garantie pour les compagnies d'une indépendance, d'une autonomie artistique. En percevant l'argent de la CAP, on devient d'office coproducteur de nos spectacles. Donc on peut entamer un dialogue avec l'institution, on peut défendre nos options par rapport à l'institution. Voilà, donc c'est d'une part le maillon principal de la chaîne du secteur qui permet de générer de l'emploi pour les compagnies qui n'ont pas d'autres ressources, et d'autre part, comme tu viens de le dire, le garant de l'indépendance des compagnies.
Alors la ministre, elle doit faire l'effort budgétaire, l'austérité, ces mots, on les entend partout, on se demande pourquoi nous on doit faire l'austérité, au nom de quoi? Certains disent on n'a pas à payer ce que les banques font, donc à un moment donné on peut aussi se poser cette question en tant que citoyen, mais plus concrètement voilà, il y a des mesures d'austérité qui doivent être faites. Apparemment, tous les ministères doivent être mis à la diète et la ministre de la Culture annonce 1% de son budget. Voilà. Donc, elle a dit qu'elle ne touchait pas aux contrats programmes ou aux conventions et elle prenait là où elle pouvait couper dans les budgets, c'est-à-dire il y a la musique, les musiques non classiques, et il y a la danse aussi. Et il y a l'aide au projet qui est une manne de 1 260 000 euros et qui passerait à la base à 700 000. C'est ce qu'on avait dit qui a déclenché un peu tout ça. Antoine, vous, hier, vous êtes parti avec votre groupe conseil d'aide voir la ministre après la manifestation. Et vos sentiments, enfin, qu'est-ce qui s'est passé?
La ministre nous a fait une proposition qu'on juge pas acceptable, pas souhaitable. C'est-à-dire que la ministre nous propose de procéder différemment. Elle nous a signifié admettre s'être trompée. Elle nous a dit qu'elle n'avait écouté qu'une partie du secteur, c'est-à-dire qu'elle avait entendu les conclusions des derniers rapports du CAD, que c'était une erreur de ne pas avoir aussi entendu les bénéficiaires du CAP. Cette conclusion-là, on peut l'accepter, c'est la proposition qui vient derrière qu'on trouve, nous, pas acceptable. La proposition qui vient derrière, c'est de répartir l'effort un peu différemment. D'abord en allant chercher quelques petites dizaines de milliers d'euros à gauche à droite, du côté de la promotion, de la diffusion, des opérations extraordinaires du type 27 septembre, la gratuité dans les théâtres le 27 septembre. Donc ça lui permet de récupérer 65 000 euros. Et puis le reste de l'effort, les 340 000 euros qui doivent encore être cherchés, elle propose d'organiser une consultation entre les deux conseils d'avis, donc la CAPT dont on parle depuis tout à l'heure, et le CAD, donc qui s'occupe des budgets structurels, de les mettre autour de la table et de faire en sorte qu'ils s'arrangent entre eux.
Parce que juste pour expliquer, donc pour donner pour ces aides de la culture, il y a des instances d'avis qui négocient, qui analysent les dossiers. Donc il y a le Conseil d'art dramatique qui analyse sur les conventions et les contrats-programmes, donc pour les compagnies ou pour les théâtres, les aides structurelles. Et puis il y a l'instance, la CAP, qui donne des avis sur les aides ponctuelles qui nous préoccupent pour l'instant. Alors juste pour les conclusions, parce qu'ils remettent un rapport quand même à la ministre, et justement je voyais que depuis 2010, la CAP demandait une augmentation de 1 600 000.
Oui.
pour et vous en êtes à 1,2 million.
Alors vous, moi je suis pas la CAP, hein, donc nous on, notre combat il est sur l'enveloppe allouée à l'aide à la création. La question du comment, elle pourrait être posée, ce serait intéressant qu'elle soit posée, mais on n'est pas là pour défendre la CAP en tant que telle, on est là pour défendre les budgets alloués à la création. Donc,
mais ce qui est étrange, parce que vous avez vu la ministre, elle vous dit qu'elle a suivi les instances d'avis, et apparemment non.
Alors, moi pour compléter ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure et que j'ai pas eu le temps de finir, je voudrais expliquer pourquoi je considère que c'est pas souhaitable. Je considère qu'à ce stade, aujourd'hui, là où on en est, il n'est pas souhaitable de liguer différents niveaux du secteur les uns contre les autres. On n'a pas envie de jouer le jeu de la division, or c'est ce qu'elle nous invite à faire, premièrement. Et deuxièmement, on considère que, étant donné que l'indexation de l'aide au projet n'a pas été faite depuis l'an 2000, que l'indexation des conventions et contre-programmes n'a plus été faite depuis 4 ans. Nous avons l'impression que l'austérité, on sait ce que c'est depuis très longtemps dans le secteur. Ça fait 12 ans qu'on fait des efforts. Il y a une colère qui est grandissante parmi nous. Il y a un sentiment d'abandon qui est grandissant parmi nous. On l'a vu hier, le millier de manifestants qui étaient là, dans le calme et la dignité, étaient aussi en colère et étaient aussi inquiets pour leur avenir. Toute coupe dans le secteur, notre petit groupe de travail la refuse. Voilà, donc on dit qu'on doit partager l'effort. Non, l'effort, nous, on le fait depuis 12 ans et une bonne partie d'entre nous sont à bout. Voilà, donc on refuse le principe de la coupe.
Par rapport à tout ce discours sur l'austérité au budget fédéral ou au budget des régions et de la communauté où on dit on doit faire des réductions et donc une politique d'austérité, vous vous dites en tout cas pour nous, on refuse au niveau des arts de la scène ?
En tant que citoyen, on refuse effectivement d'envisager la moindre coupe dans notre secteur qui est déjà exsangue.
Olivier, toi, tu es parti faire à l'abbaye, donc à l'abbaye de Forêt, ils se sont réunis, une première réunion samedi et hier la manif. Comment tu sens ce mouvement, toi qui es vraiment extérieur, qui
est ici en tant que journaliste? Bah, comme l'a dit Antoine, très, très uni. Et samedi, il y avait à la fois des comédiens, des metteurs en scène, des directeurs de théâtre, des techniciens, des régisseurs, des éclairagistes. Il y avait tout le monde qui était présent. Et au-delà de la colère, il y avait aussi l'indignation par rapport aux propos et la communication de la ministre. Et cette indignation, on l'a retrouvée hier très très forte.
Il y avait aussi le secteur de la danse qui est réuni. Comment il s'est intégré? Comment vous avez pu, Antoine, fédérer tous ces gens? Ça a été sur Facebook?
Alors concrètement, oui, ça a été sur Facebook. Nous, on avait le souhait d'associer, enfin de nous montrer solidaires des autres domaines concernés. Après, dans le groupe de travail qui s'est improvisé la semaine dernière, nos contacts, notre connaissance des dossiers se portent exclusivement sur le théâtre. Donc on se sentait pas du tout compétent de porter, nous, gens de théâtre, le combat pour la danse. Donc effectivement, on en a appelé à des représentants du secteur de la danse et des musiques non classiques. L'un d'entre eux, pour chacun de ces domaines, était présent avec nous au cabinet de la ministre après la manifestation hier. Donc oui, on a souhaité ouvrir. Encore une fois, on a envie que le secteur de la scène dans son entier se montre solidaire. On n'a aucune envie d'aller piquer les sous de qui que ce soit. On pense qu'ils sont dans la même situation que nous, et si pas pire sur certains aspects. Notre message est celui de l'union et de la solidarité, oui, clairement.
Mais Antoine, si j'ai bien compris, vous vous dites on a fait assez de restrictions depuis des années. Donc ici, par rapport aux mesures d'austérité que font tous les ministères, vous dites nous, en culture, on n'en veut pas.
Notre argumentation première, celle qui est dans la pétition qui a été signée par 9000 personnes, donc ça on l'a pas encore dit, mais donc la pétition qu'on a remis hier à la ministre à l'issue de la manifestation et qui porte sur le refus sur ces mesures a été signée par 9000 personnes en moins d'une semaine, en 5 jours je crois, 5 ou 6 jours. L'argumentaire qu'on déploie là, c'est qu'en temps de crise, effectivement, il nous semble que des mesures qui génèrent plus de précarité, plus de chômage, plus de travail au noir ne sont pas des bonnes mesures. Or, on l'a déjà dit, l'exemple de Myriam est parlant et on peut en citer plein d'autres. Ces aides de la CAP, même si elles sont minimes, on parle de montants dérisoires au vu de sommes dépensées ailleurs. Hein, donc on est en train de pinailler pour 340 000 euros. Hein, là, donc, voilà. Mais on n'a pas l'impression de pinailler. On n'a pas du tout l'impression de pinailler parce que ces sommes minimes à la base sont des véritables aides à l'embauche qui permettent à toute une chaîne d'emploi de se déployer derrière. Donc je peux prendre mon cas puisque c'est celui que je connais le mieux, forcément. forcément. Mon premier spectacle créé dans l'institution a reçu une aide de 17 000 euros.
Les langues paternelles.
Les langues paternelles a reçu une aide de 17 000 euros à la création. Avec cette aide de 17 000 euros, j'ai fourni pendant plus de 3 mois par an, depuis 3 ans et demi, du travail à 5 personnes. On a fait 97 dates, on a été vu par 500 programmateurs lors de notre présence à Avignon. Ça œuvre au rayonnement, ça œuvre à l'emploi, c'est une aide à l'embauche directe. Supprimer cette aide à l'embauche directe, c'est casser toute la chaîne qu'il y a derrière. Voilà. Et on pense qu'en temps de crise, ça n'est pas une bonne mesure. Une mesure qui génère plus d'emplois et plus de chômage, pardon, et plus de travail au noir n'est pas une bonne mesure.
Justement, je voulais parler, Michael Denoy, vous qui êtes directeur du Rideau et qui vous êtes passé aussi par là. Oui. À un moment donné, est-ce que c'est vraiment cette aide au projet met en péril les spectacles que tu vas programmer, par exemple? Parce qu'on dit, sans ça, les théâtres n'ont pas de sous, ne peuvent pas programmer. Qu'est-ce qu'il en est?
Moi, je pense qu'il y a un problème de fond que j'ai pu mettre en évidence avec d'autres gens à plusieurs reprises. Il y a eu les états généraux du jeune théâtre, d'abord en 94. Il y avait déjà eu les états généraux du jeune théâtre dans les années 70. Hein. Il y a eu le moment où Richard Miller, quand il était ministre de la Culture, avait réuni la profession aussi en 2001. Il y a eu les états généraux de la Culture en 2005. Et personnellement, je n'ai cessé de répéter, il n'y a pas de politique des compagnies dans cette communauté. Historiquement, au départ, dans les théâtres, il y avait des comédiens à l'année. Les artistes étaient intégrés dans l'institution progressivement, pour des raisons essentiellement économiques. Il n'y a plus de troupes dans les théâtres, et tous les artistes se sont trouvés à l'extérieur de l'institution. Donc une institution, aujourd'hui, c'est parfois un directeur artistique qui est un artiste, une équipe administrative, une équipe technique, et les artistes sont invités au coup par coup.
Des freelances.
Voilà, c'est des freelances. Alors je ne dis pas qu'il faut reconstituer le système des troupes, qui est un système qui existe encore, par exemple, en Allemagne, qui est toujours le modèle dominant en Allemagne, où voilà, tu as des martyrs, il y a des exemples, mais bon, en tout cas, en France, en Belgique, dans la plupart des pays européens, ça n'existe plus. En revanche, il faut que, effectivement, les artistes puissent avoir des moyens de négociation avec les institutions. Ça passe par des moyens économiques. Quand un artiste va trouver une institution, dit « j'ai envie de monter tel projet » et qu'il arrive avec 0 €, il serait absolument hypocrite de dire que ça n'a pas d'importance. Bien sûr, ça a de l'importance. On discute artistique, entre un directeur artistique et des artistes, ça discute artistique, mais ça discute aussi budget, évidemment. Donc, il faut renforcer les compagnies. Ce discours n'a jamais été entendu. Du côté flamand, je n'idéalise pas du tout la politique culturelle flamande, entendons-nous, mais il y a eu clairement, à un moment donné, une volonté de mettre l'argent dans les compagnies et de valoriser les compagnies, notamment sur la scène internationale. Il n'y a pas ce travail qui est fait du côté francophone parce que tout repose sur l'institution, les briques. Voilà. Sous la législature précédente, il y a eu clairement une politique culturelle qui était de renforcer les grosses institutions. Le Théâtre National a connu une augmentation considérable de ses subventions. Le Manège Pointe-Monts, le Théâtre de la Place. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire ça, mais maintenant, il faut clairement s'occuper des compagnies et des artistes.
Et c'est justement une des conclusions de la CAP, hein, d'aide au projet, qui demande à la ministre, parce qu'ils mettent des avis pour que la ministre en tienne compte ou mette en perspective, ils demandent qu'il y ait plus de nouveaux contrats-programmes et de conventions pour un peu enlever des gens qui viennent demander une aide au projet. Quoi.
Et un artiste comme Pascal Crochet, il a 50 ans, il a eu le prix du meilleur spectacle pour une de ses créations qu'il a fait chez nous. Il émarge toujours à l'aide au projet. Je ne trouve pas que c'est une situation très saine. Que des gens, parce qu'elle est aussi pédagogue, par exemple, émargent à la même commission que des gens qui sortent de l'école. Il y a là quelque chose qui n'est pas...
C'est la manne des artistes freelance. Nicolas, est-ce qu'on fait la pause musicale où on appelle Bud Blumenthal, parce que la danse aussi est représentée dans ce débat.
Une pause musicale qui est dans le thème un petit peu. On peut peut-être le...
Alors tendez bien l'oreille, c'est un discours de Michael Delenoy dans les cadres des états généraux de la culture où il y avait des débats avec la ministre qui a lancé, qui a fait quand même des bonnes choses, la ministre, il ne faut pas non plus tout jeter, mais elle a fait, en tout début, elle était en bonne intelligence, on va dire, et il y avait ces débats des états généraux. Et quelqu'un, Guillaume Istas, a repris un discours de Michael Delenoy et l'a remixé. Merci à lui.
Madame la ministre, est-il accepté? Madame la ministre, est-il accepté? Est-il accepté? Est-il acceptable? Est-il acceptable? Madame la ministre, est-il accepté, madame? Est-il accepté? Est-il acceptable, Madame la Ministre, d'entendre certains directeurs d'institutions prétendre qu'il n'y a plus chez nous de jeunes metteurs en scène valables ? Ces jeunes ont perdu toute conscience politique, idéologique, toute audace esthétique, toute radicalité. C'est acceptable. Est-il acceptable que de façon quasiment systématique, les directeurs d'institutions théâtrales restent au même poste durant 40 ans, dont les metteurs en scène, chorégraphes, acteurs, danseurs, scénographes, éclairagistes, costumiers, maquilleurs sont engagés par ces mêmes directeurs pour 3, 2, voire 1 mois. Cette situation répond-elle aux idéaux progressistes, démocratiques que les programmes de saison rédigés par ces mêmes directeurs nous livrent invariablement chaque année? Est-il acceptable pour un metteur en scène, pour une équipe artistique, de s'entendre éternellement dire et redire, ceci est trop compliqué, ceci est trop violent, ceci est trop sombre, ceci n'est pas assez drôle, ceci n'est pas pour mon public? Est-ce acceptable? Le public appartient-il au directeur d'institution? Le public doit-il être protégé? Le public est-il adulte? Le public doit-il être contrôlé? Est-il acceptable d'entendre des directeurs d'institutions de premier plan prétendre qu'il n'est pas facile de trouver de jeunes acteurs valables sur toutes nos écoles? Ces propos sont-ils acceptables? Ces propos sont-ils raisonnables? Qu'en pensent les metteurs en scène qui emploient des acteurs? Qu'en pensent les metteurs en scène étrangers qui emploient des acteurs de notre communauté? Qu'en pense le jury du Festival de Cannes? Est-il acceptable qu'après 10, 15 ou 20 années d'expérience dans l'enseignement de l'art dramatique, les artistes pédagogues continuent à émarger à la même commission d'aide aux projets, à laquelle émargent les artistes qu'ils forment? Est-ce acceptable? Est-il acceptable? Est-ce démocratique? Est-ce acceptable? Acceptable? Pourquoi? Est-il acceptable? Est-il acceptable que... Merci.
Voilà, c'était Guillaume Istas, un artiste facultatif, comme on dit désormais, de ces artistes qui reçoivent une aide au bon vouloir. Et donc, c'était le discours remix de Michael Delenoy dans
non autorisé.
Dans le cadre des états généraux de la culture, des questions qui sont toujours d'actualité. On se demande vraiment ce qui se passe au niveau de la culture, quand est-ce qu'elle va être réfléchie avec une bonne perspective au fil des ministres qui ont défilé à ce poste. J'ai à l'antenne Bud Blumenthal. Allô Bud, bonjour.
Bonjour Nathan.
Est-ce qu'on entend? Je ne l'entends pas. Vous l'entendez? Bud, vous occupez du secteur chorégraphique. Vous êtes défenseur de ce mouvement qui peine à se faire entendre par rapport aux gens de théâtre parce que vous êtes peu, on vous comprend. Mais qu'est-ce qui se passe ici avec la ministre de la Culture?
Les chorégraphes ont réagi à un peu plus tardivement que des gens de théâtre, mm-hmm. quelques jours à peine. Mais ça suffit d'avoir... dans une action de mobilisation, des différences assez importantes aux résultats, des pétitions, par exemple. Nous avons aussi peut-être raté au tout début, puisque ça ne s'est démarré pas au même temps, la possibilité de rayonner parfaitement nos forces dans les premières communiqués, pétitions. Mais ceci dit, on s'est mobilisé, disons, à partir du vendredi passé et le samedi, enfin le week-end.
Mais qu'est-ce que vous vous demandez? Qu'est-ce que vous vous défendez? Et sur quoi vous vous rebellez, on va dire?
On ne se rebelle pas, on est un peu révolté de par des coupes donc, dont le budget des et le projet dans la danse, qui le réduit de 450 à 275 000 euros, donc une coupeur de plus que 45%. Et ça s'est porté sur les aides au projet qui était un peu pernicieux, puisque c'est non seulement les gens qui travaillent seulement avec ce fonds-là, c'est-à-dire c'est les seules options qu'ils ont pour porter un projet, à part des coproductions à l'étranger ou d'autres acteurs, mais c'est aussi pour des compagnies qui sont stabilisées avec des conventions, mm-hmm. parce qu'avec les conventions, ce sont des montants de conventions qui stabilisent la compagnie, mais ne sont pas assez fortes ou grandes pour que la compagnie peut l'utiliser pour faire des créations. Donc, c'est seulement les contrats-programmes qui touche pas à mm-hmm. cette enveloppe des aides au projet. Ce sont les aides au projet, c'est des conventions ainsi que tous les autres artistes qui n'ont pas une convention de tout ou qui sont tout simplement un peu freelance comme ça.
Bud, vous hier vous êtes parti voir la ministre, hein, vous avez eu accès après la manifestation. Qu'est-ce qu'elle a dit concrètement pour la danse? Donc des 450 à 200, une diminution. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, c'est ça. Ben, en fait, elle a regretté que il n'y avait pas une concertation assez importante avec la avec les autres acteurs de la danse pour en arriver à cette décision qu'elle avait prise. Elle était d'accord que c'était inéquitable comme mesure de réduction de déficit en pesant tout sur les gens qui sont franchement les moins habiles, les moins robustes à résister à ce genre de coupeur. Donc
Excuse-moi, est-ce qu'elle se rend compte que c'est inéquitable d'une mesure qu'elle-même promeut?
Oui, tout à fait, tout à fait. Elle a pris acte, de cet rassemblement. C'est pour ça qu'elle était étonnée, c'est pour ça qu'elle nous avait reçus, les acteurs de théâtre, musique et danse. Et elle a clairement dit que, vu la mobilisation, elle doit repenser ce qu'elle avait proposé. Elle est prête à le faire. D'ailleurs, il y a une réunion extraordinaire qui était demandée par le président de la Conseil de la danse, qui, je précise, n'était pas au courant de ce qu'elle allait proposer.
Mais justement, un des reproches qu'on lui fait, c'est par rapport à ces coupures, il n'y a justement eu aucune concertation. Et quand on voit les conclusions des instances d'avis, ça va, c'est un grand écart entre l'opposition. Le Conseil d'aide à la CAP au niveau du théâtre demande une augmentation du budget. Et ici, on est dans une diminution. Donc, à un moment donné, quand la ministre renvoie aux instances d'avis, on se dit que c'est un peu se cacher derrière ses responsabilités. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour l'ARAC, hein? Pour vous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour l'instant?
Mais en fait, on attend de voir ce qui va se passer lundi quand elle va, elle ou son cabinet, rencontrer le Conseil de la danse qui sera donc en réunion extraordinaire pour faire face à cette crise, parce que pour nous, c'est vraiment une crise. Le Conseil qui n'était pas consulté va pencher sur cette question, va poser plein de questions à elle, ou à son cabinet, et vont sans doute explorer des possibilités de rééquilibrage ou d'autres options pour que ça ne pèse un peu moins lourd sur cette enveloppe qui est vraiment pas efficace. C'est tout simplement cela. Ça va en fait toucher toute la partie du secteur qui est absolument le plus fragile et préserver ceux qui sont le plus confortables, je dirais. Okay. Donc, comment faire? Je ne peux pas dire comment ça va se faire.
Mais on en reparlera alors. On sait que les débats sont... Enfin, que cette crise a déclenché des débats. C'est malheureux d'attendre une crise pour un peu réfléchir et concerter les instances. On en reparlera. Bud, merci, parce que je dois conclure et je voudrais parler à Myriam. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Myriam Sadoui, ça va être très court parce que le temps file. Metteuse en scène, de quelle génération? 40? Myriam, 40 ans?
Oh non, j'ai plus de 40 ans, mais moi je pense que la création, c'est pas un âge civil. C'est pour ça que...
Bon. Non, mais on parlait de difficultés aussi comme...
Oui, Pascal, mais moi j'ai fait l'INSAS, j'en suis sortie en 90, donc évidemment je suis... moi j'étais comédienne, donc je suis une metteuse en scène tardive, puisque j'étais d'abord comédienne. Et donc...
De l'importance de cette cape, par exemple. Ici, tu as reçu 40 000 pour la nostalgie de l'avenir?
Voilà, moi j'ai reçu deux fois la cape pour Affaire d'âme de Bergman, 15 000. Mm-hmm. Et pour la nostalgie de l'avenir, 40 000. Alors ce sont des chiffres, comme l'a dit Antoine, ça couvre quasiment l'intégralité des salaires. C'est très simple, la nostalgie de l'avenir, c'est 5 000 euros, scénographie, costumes, accessoires, vidéos... Et tout le reste, c'est les salaires.
Moi, je veux juste comprendre, est-ce que vraiment, parce que tout le monde le dit, il y a des témoignages par rapport à cette cape, est-ce que sans cet argent, il n'y avait pas moyen de faire le spectacle?
Non, alors ça, c'est très clair.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que, moi, en tout cas, je suis un partenaire, enfin, Océan Or, le théâtre Océan Or est mon partenaire, donc c'est impossible pour Océan Or, qui accueille plein de jeunes compagnies, de produire un projet qui, le premier budget de la nostalgie, c'était 85 000 euros et on se payait à peu près normalement. Mm-hmm. Et il est descendu à 58 parce que voilà...
Le total, l'enveloppe totale.
L'enveloppe totale, oui.
Vous êtes combien?
Eh bien, il y a 6 acteurs, 2 techniciens, et ça c'est bon, un metteur en scène, un assistant, et donc il y avait une équipe de création de 14 personnes.
On en reparlera à l'occasion, parce que c'est un débat qu'on va suivre, parce qu'on a l'impression, moi j'ai l'impression en tout cas, de survoler la matière, c'est tellement dense. Antoine, je voudrais te donner la dernière parole, la conclusion. Que se passe-t-il maintenant avec le Conseil d'aide? Qu'est-ce qui... la suite?
Ben, nous, on a publié un communiqué hier soir qui reprend en gros ce que je vous disais tout à l'heure, et qui conclut... par la chose suivante, si la ministre considère qu'elle n'a pas de marge de manœuvre dans son gouvernement pour défendre l'intérêt du secteur, c'est ce qu'elle nous dit, ces économies doivent être faites, le gouvernement l'impose, le ministre du budget, le ministre-président l'impose, bah, nous notre réaction par rapport à ça, c'est d'en appeler à l'ensemble du gouvernement, en la personne de son ministre-président Rudy De Motte, pour tenter de lui expliquer la réalité de notre secteur, pour tenter de lui expliquer que cette mesure nous semble tout à fait mauvaise. Et donc on en appelle à la fois à une prise de position de l'ensemble des organismes représentatifs du secteur, des chambres patronales jusqu'aux compagnies, en passant par tous les autres organismes représentants, pour qu'ils prennent position clairement et pour qu'ils interpellent le gouvernement de la communauté française.
Ça marche, c'est entendu, parce que je vois par exemple que Frédéric Jung de la SACD a écrit aussi une lettre à la ministre en jugeant inadmissible cette conversation et vraiment du côté des plus fragiles. On reparlera de ce débat. Merci à tout le monde ici présent, donc Michael Delenoy, Myriam Salvier, Olivier qui nous écoute, Sophie qui est en coulisses, Nicolas qui assure la technique avec un grand sourire. Merci Nicolas et Antoine. On peut dire que courage à ces artistes qui manifestent et ça a l'air d'être bien entendu dans le milieu. Merci beaucoup. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la conspiration des planches. Et évidemment, on a un œil là-dessus.
Et le podcast de cette émission sur demandezleprogramme.be. Très belle semaine à vous. Gracias.